fois, il m'est arrivé de demander à quelqu'un est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Et d'avoir la réponse je pense, ou la réponse je l'espère. Vous savez, quand Christ a laissé des disciples, il a dit que vous serez mes témoins. On ne peut pas témoigner si on n'est pas sûr de son salut. Parce que si on commence à témoigner et la personne dit « Est-ce que vous êtes sûr vous-même ?» et vous dites « Non, mais je l'espère, il va répondre et moi aussi, donc ce n'est pas la peine de continuer. » Il faut être sûr si on va gagner des âmes, parce qu'il faut leur offrir quelque chose de réel. Est-ce que vous êtes sauvés? Alors ce matin, j'ai pensé, il serait bien de regarder si on est sauvé ou non. Il y a les critères, les signes qui montrent si on est sauvé ou non. Et je vais en donner 6 critères ce matin qui va vous aider à savoir si vous êtes vraiment sauvé ou non. Et je commence avec le premier critère, c'est que la conviction du péché. Et je tourne vers le pasteur de lire un verset qui va nous aider.
1 Jean 5, 18 nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. »
Vous avez vu, il ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sauvé, réellement sauvé, il est troublé quand il pêche. Par exemple, si vous dites ce matin, je suis sauvé, et vous vivez en concubinage, et ça ne vous trouble pas du tout, vous pouvez continuer comme ça, comme si rien n'a été, moi je vous dis, vous n'êtes pas sauvé. Parce que quand on est sauvé, on est troublé, on est convaincu du péché, et on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Quand quelqu'un est vraiment sauvé, alors il rompt le concubinage. Si la jeune fille, par exemple, accepte le Seigneur aussi bien que le jeune homme, alors ils peuvent régulariser leur situation et se marier. Si elle ne veut pas le suivre, si c'est lui qui a accepté le Seigneur, alors qu'ils se rompent et qu'ils se séparent pour de bon. Mais de continuer comme si rien n'a été, ça déshonore le Seigneur. Et si vous êtes dans un cas comme ça, ça ne prouve pas que vous pouvez vivre là, ça prouve que vous n'êtes pas sauvé. On est sauvé et ça change. Et la conviction du péché, c'est la première. Vous dites, oui, mais je ne suis pas dans ce péché-là, mais vous pouvez être dans un autre. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui sont saisis par cette pornographie qui est à l'Internet constamment. Et on est tenté, beaucoup de gens sont tentés, mais si vous le faites sans être troublé, ça prouve que vous n'êtes pas sauvé. Et si vous êtes troublé, vous voulez confesser ce péché, non pas avec l'idée « je vais le reprendre demain ». Quand on confesse son péché, il est dit en Jean, « si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Alors, un chrétien peut tomber dans un péché, même un péché grave, mais s'il est repentant, s'il veut abandonner le péché, ça montre qu'il est vraiment sauvé. Parce que quand on est sauvé, on est malheureux dans le péché. On est vraiment malheureux. Et il nous tarde de confesser, d'abandonner le péché et d'être de nouveau en règle avec Dieu. Si vous vivez dans une condition de péché, sans être troublé ce matin, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Alors le deuxième, il y a un autre critère maintenant, et je vais demander de nouveau au pasteur de lire le deuxième verset.
Toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 3, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. »
Gardons sa parole. Le deuxième critère, c'est qu'on aime la Bible. On aime la lire. Quand on est vraiment sauvé, on veut connaître la parole de Dieu. Mon professeur à l'Institut biblique était un homme qui gardait un bar. Et quand il a accepté le Seigneur, il a tout de suite vendu le bar. Il a commencé à lire la Bible. Il est dit qu'il a lu des fois 17 heures dans la journée. Et une fois 21 heures dans la journée. Bon, vous n'allez pas tous lire 21 heures par jour. C'est compréhensible, mais vous allez l'aimer. Cet homme qui tenait le bar, qui acceptait le Seigneur, était mon professeur. Il était l'homme qui connaissait la Bible plus que tout autre homme en Amérique, parce qu'il aimait lire la parole de Dieu. J'ai entendu parler d'un pasteur qui voulait savoir si les différents membres de son église lisaient la Bible. Alors, il avait la coutume de laisser sa Bible dans la voiture quand il est allé les rendre visite. Quand il était là, il a dit, « J'ai laissé ma Bible dans la voiture. Est-ce que vous pouvez me donner votre Bible pour que je vous lise un passage ?» Et puis, il regardait ce qui allait se passer. Alors, si la dame disparaissait pendant longtemps, il savait qu'elle cherchait sa Bible. Et quand elle revenait, si elle était en train de l'épousseter avec la manche de sa chemise, il en était persuadé. Vous savez, quand on est vraiment sauvé, on aime lire la parole de Dieu. Et je pense à ces soldats qui, dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient pris soudainement en Amérique pour aller sur le champ de bataille. Et quelquefois et souvent, ils étaient tout prêts de se marier. Et le mariage était rompu parce qu'il était obligé de partir immédiatement. Se trouvant sur le champ, il était là quand on lisait chaque matin, « Voilà la liste de ceux qui ont reçu une lettre. » Et puis ils écoutaient si leur nom était lu. Si oui, s'approcher, prendre la lettre, le regarde, oui, c'est elle. Alors, vous croyez qu'il a mis dans sa poste en disant, bon, un de ces jours, quand j'ai le temps, je vais la lire. Croyez-vous, si vous croyez ça, vous vous trompez terriblement. Hein? Il a couru pour être dans un endroit tout seul où on ne pouvait pas le voir pleurer. Alors, ouvrant la lettre, il a lu une fois, il a lu deux fois, puis il commençait à étudier presque la lettre. Pourquoi? Parce qu'il partageait ce temps avec elle. C'est comme si elle était là. Il lisait chaque mot. Quand on aime lire la lettre de celui, de celle ou de celui qui nous a écrit. Vous savez que quand Christ est parti, il est allé chez lui et il nous a laissés sur le front. Nous sommes les guerriers sur le front. Mais il nous a laissé une lettre. Une lettre d'amour. Et si on aime le Seigneur, on va lire sa lettre. Sa lettre s'appelle la Bible. Et on l'ouvre, et quelquefois, comme le soldat sur le front, on pleure. On lit un verset, et ça nous fait pleurer. Parce qu'on aime le Seigneur, et on sait que le Seigneur nous aime. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas sauvés ce matin. Parce que ceux qui l'aiment, ceux qui le connaissent, lisent la Bible. On va trouver un autre critère.
Toujours dans l'épître de Jean, chapitre 2, verset 9.
Alors, j'arrête là juste une seconde. L'apôtre Jean était très troublé parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui disaient « J'espère être sauvé, je pense être sauvé ». La lettre de Jean, cette première lettre, c'était pour encourager les gens de continuer dans leur vie chrétienne, mais surtout pour les assurer qu'ils ont la vie éternelle maintenant. Voilà, on va continuer.
1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Troisième, c'est que on aime ses frères et sœurs en Christ. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas sauvé. Quand on est sauvé, on entre dans une famille et on devient frère et sœur dans la même famille. Je peux vous dire franchement que je vous aime plus que j'aime mon propre frère. Ça me fait de la peine de le dire, mais mon frère refuse d'accepter Christ. Il refuse. Il pense que ce qu'il fait, c'est bon. J'ai peur d'être séparé de lui pour l'éternité. Et c'est dur. Mais le Seigneur a dit que nous entrons dans la famille de Dieu et nous devons aimer les uns les autres. C'est formidable d'être dans l'Église. Quelqu'un qui, le dimanche matin, trouve bon de rester à la maison ou d'aller faire le marché ou d'aller couper la pelouse, comme beaucoup le font en Amérique. Vous savez, si vous n'aimez pas aller au culte, si cela ne vous dit rien d'être avec des frères et sœurs, d'entendre la parole, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Si vous préférez regarder la télé que de faire ça, vous n'êtes pas sauvé. C'est-à-dire que quand on est sauvé, on aime être avec des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs, c'est facile de les aimer. Puis il y a des frères et sœurs, c'est difficile de les aimer. C'est-à-dire, quelquefois, il y a un caractère qui est difficile, mais le Seigneur a dit que nous devons l'aimer les uns les autres. Moi, quand j'étais sauvé, il me tardait que le dimanche arrive. Qu'est-ce qui me tardait? Je comptais les jours. Ça fait déjà quoi, plus de 70 ans et je n'ai jamais perdu l'habitude. Il me tarde que dimanche arrive et que je vois tout le monde, que j'aime mes frères et mes sœurs. Si vous ne les aimez pas, c'est que vous n'êtes pas sauvés. On va laisser ça.
L'autre se trouve dans Actes 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter son char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque.
Ici, c'est un cas extrêmement intéressant. Cet Éthiopien est en train de rentrer chez lui. Il avait visité Jérusalem et il a vu les Juifs dans leur adoration du Seigneur. Il avait entendu le témoignage des gens qui étaient là. Et il avait même la Bible. Il était en train de lire Ésaïe 53 quand Philippe était arrivé. Vous savez, ça c'est quelque chose de difficile à comprendre. Et ça nous arrive souvent à nous. C'est que Philippe était dans un réveil en Samarie. Il n'y a rien de plus beau qu'un réveil. C'est le plus proche qu'on arrive avant d'arriver au ciel. Tout le monde est touché par le Saint-Esprit. Tout le monde s'aime. Tout le monde aime chanter, être ensemble. Il y a des âmes qui sont sauvées les unes après les autres. C'est le ciel sur terre. Philippe était là, dans ce grand réveil. Et Dieu lui a dit, « Philippe, va dans le désert maintenant. » Vous savez, il y a des moments dans notre vie où on ne comprend rien. On a un projet devant nous tout marche parfaitement bien, et puis tout d'un coup, cataclysme. Quelque chose arrive qui a l'air de tout interrompre. Alors, quelqu'un de famille meurt soudainement, ou vous êtes dans un accident, ou vous perdez votre travail, et vous ne comprenez rien. Vous étiez si heureux, tout était parfaitement aligné quand tout d'un coup, tout est changé, tout est basculé. Mais il y a une raison. Dieu a un plan. Ça nous a pris par surprise, mais pas Dieu. Parce que Dieu connaît tout depuis le début. Il sait ce qui peut arriver dans une famille. Il sait ce qui vous allez arriver. Et voilà, Philippe se trouve dans le désert. Mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Cette Éthiopienne est entrée dans son pays, il a parlé de Christ. Il y avait des églises qui se sont formées. On dit que jusqu'au 20e siècle, début 20e siècle, il y avait encore des vestiges de ce que de cet eunuque a fait. C'est-à-dire le christianisme a traversé 2000 ans pour arriver jusqu'à notre époque, parce qu'un seul homme était fidèle en parlant de Christ. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Si des cataclysmes arrivent dans notre vie, quelquefois parce que Dieu a un plan extraordinaire pour nous, et nous ne devons pas baisser les bras, ni dire voilà, c'est terminé, mais dire Seigneur, dirige mes pas, et fais en sorte que quelque chose de grand arrive. Nous avons beaucoup à apprendre de cet Éthiopien qui est descendu et de Philippe qui était prêt à obéir au Seigneur, de quitter un réveil pour aller dans le désert. Et quand il a parlé avec Philippe, Philippe a dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il voulait être baptisé immédiatement. Je crois que c'est un signe, c'est un critère. Quand quelqu'un est vraiment sauvé, il veut être baptisé. Je me rappelle quand j'étais sauvé, c'était la première chose. Quand est-ce que je peux être baptisé? Quand vous regardez le Nouveau Testament, que ce soit le jour de Pentecôte, où l'Église a démarré, il y avait 3000 et tous étaient baptisés le même jour. Après, il y avait Corneille. Et quand l'Évangile est entré dans sa maison, la Bible dit qu'ils étaient tous baptisés le même jour. L'Éthiopien, le même jour. Un peu plus tard, Paul était dans la prison et le geôlier et toute sa famille ont accepté le Seigneur et furent baptisés la même nuit. Nous ne lisons jamais qu'il y avait une attente entre d'accepter Christ et d'être baptisé. Notre Église n'est pas équipée pour baptiser les gens immédiatement. Nous sommes obligés d'attendre. Nous appelons ce moment les fiançailles. C'est quand le candidat fait connaissance de l'Église et que l'Église fait connaissance du candidat. Oh, peut-être pendant 30 jours, on espère qu'il soit baptisé dans les 30 jours qui suivent. Il n'y a pas beaucoup à apprendre. Il faut savoir s'il est vraiment sauvé. S'il a un gros péché dans sa vie qui l'empêcherait d'être baptisé et qu'il connaisse un tout petit peu ce que c'est l'Église locale, ses responsabilités, ses privilèges, mais ça ne prend pas beaucoup de temps, et qu'il soit baptisé. Baptisé quand il est dans le feu et la passion de son salut. Quand encore son cœur brûle avec son premier amour avec Christ. Voilà comment l'Église doit marcher, fervente pour Christ, toujours en avant, avec un amour ardent pour lui. Ne pas laisser tout tomber dans l'oubli, mais de garder cette flamme perpétuellement. Si quelqu'un ne désire jamais le baptême, c'est encore une preuve, il n'est pas sauvé. Parce que le baptême lui permet d'être dans l'Église un frère, prendre la Sainte Cène, prendre une part active dans l'Église, d'être membre les uns avec les autres, d'encourager et d'avoir une place, un ministère. Encore.
Suivant se trouve en Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Maintenant, nous arrivons au critère le plus important de tous. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit entre dans notre cœur. Je me rappelle, quand j'étais à genoux, le pasteur était à ma droite et celui qui m'enseignait était à ma gauche. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Je savais l'instant même quand le Saint-Esprit est entré en moi. Il se faisait connaître et je savais que j'étais sauvé. Vous savez que c'est ça que Jean a dit en 1 Jean 5, où il a dit en verset 12, « Celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui a Christ en lui, a la vie éternelle, il a la vraie vie, la vie qui continue pour toujours. » Et puis il ajoute, « Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, c'est-à-dire il est perdu pour l'éternité. » À moins qu'ils se convertissent. Mais Jean n'était pas content de dire « Celui qui a le Fils a la vie ». Il est allé plus loin, il a dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, pas que vous pensiez ou que vous espériez, mais afin que vous sachiez que vous avez, pas que vous aurez, mais que vous avez la vie éternelle maintenant ». Vous savez que j'étais dans une église avant d'être sauvé, une église libérale aux États-Unis. Oh, je n'étais pas membre, j'ai assisté. Mais dans cette église, on disait toujours, nous espérons un jour aller au ciel. Mais je me suis dit, moi aussi j'espère aller, mais étant donné qu'ils ne le savaient pas, ce n'est pas la peine que je l'écoute davantage. Alors j'ai quitté tout de suite. Alors, c'était par la suite que quelqu'un a dit, je sais que je suis sauvé et que je serai avec le Seigneur pour l'éternité. Cette conviction est entrée dans mon cœur. Je me suis dit, moi, je veux savoir pour de bon si je suis sauvé ou non. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, pas que vous aurez. Tout le temps, on m'a dit avant d'être sauvé, Dieu va nous le dire quand on arrive au ciel. Il va dire, toi tu restes et toi tu vas en enfer. Et ce n'est pas comme ça. C'est que si on est sauvé, on sait qu'on va au ciel. Je viens de perdre ma femme. Et quelle joie de savoir, elle est là-haut. Elle est absente du corps, on est présent avec le Seigneur. Oh, quelle joie de savoir cela. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Et si vous ne pouvez pas ce matin dire, je sais que je suis sauvé, vous n'avez pas besoin de dire la date. Il y a beaucoup de gens, les prédicateurs qui disent, mais dites-moi quel jour. Ce n'est pas de dire la date, c'est de pouvoir dire, je sais que je suis sauvé. Parce que Christ est en moi. Amen. C'est ça, la vie éternelle.
Le dernier point est en 2 Corinthiens 5, 17.
Où nous lisons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En réalité, le verset veut dire, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, Dieu fait un homme nouveau. On est tout à fait différent. Il nous change totalement. Il nous donne, c'est-à-dire on ne le reconnaît plus, c'est ça. Prenons par exemple, on va dire, il s'appelle Pierre, disons. Et Pierre, il aime raconter les blagues sales. Oh, il est beaucoup aimé par ses camarades parce qu'ils aiment ça. Alors, il sort avec ses camarades, il leur raconte toutes ces histoires. Et puis, ce qu'il aime, c'est de s'enivrer le samedi soir. Et puis, il a tout le dimanche matin pour dormir et tout cela. Alors, un jour, le groupe avec lequel il va toujours décide d'aller quelque part et vraiment passer le week-end. Mais il nous faut Pierre. il va nous raconter des blagues. Alors, il dit, il faut le dire à Pierre qu'on y va ce week-end. Ah, mais tu ne le sais pas. C'est quoi? Mais Pierre, il ne viendra pas. Hein? Et pourquoi il ne viendra pas? Parce qu'il apprend comment enseigner les enfants à la Bible le dimanche matin. Ah, mais tu te trompes de Pierre. Je veux dire, Pierre, c'est lui qui raconte des histoires. Mais c'est justement de lui que je parle. Il enseigne les enfants la Bible le dimanche, oui. Ah, il faut que je voie ça. Alors, ça, c'est le témoignage. C'est comme cela que la Bible continue. Parce que quand on est sauvé, la vie change. Vous dites, oui, mais jamais j'ai été comme ça. Non, mais vous avez d'autres péchés. Tout le monde a des péchés. Vous savez, Dieu change des gens quand ils sont sauvés. Celui qui est violent, il devient doux comme un agneau. Celui qui est timide, quelquefois, j'ai entendu un pasteur, juste avant de venir ici, oh là là, qu'est-ce qu'il est pauvre et prêché, n'est-ce pas? Il prêchait avec tout son corps aussi bien que sa bouche. Alors, il a dit, moi j'étais tellement timide que je ne pouvais même pas me tenir devant les gens. Dieu l'a changé. On devient une nouvelle personne. Christ nous change totalement. Si vous pouvez dire ce matin, oui, Dieu m'a changé. Je suis un autre homme. Je suis une autre femme. Je ne ressemble à rien de ce que j'étais avant. Vous êtes sauvés. Mais si vous dites, rien n'a changé en moi, je suis toujours le même. Je mens aussi bien maintenant qu'avant. Je suis aussi furieux, aussi violent qu'avant. C'est que vous n'êtes pas sauvé ce matin. Il se peut que ce matin, il y a des gens ici, après les critères, vous savez si vous êtes sauvé ou non. Vous savez si vous avez la vie éternelle ou non. Vous savez si le Seigneur est dans votre cœur ou non. Mais ce matin, vous avez toujours pensé que oui, je suis sauvé, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas vraiment sûr ce matin. Alors, ce que je vais vous dire, je vous invite, si vous n'êtes pas absolument sûr, ou si vous voulez accepter le Seigneur, vous ne l'avez jamais fait, vous tous qui êtes comme ça, j'aimerais maintenant que vous vous levez là où vous êtes. Je veux être sûr ce matin. Je ne suis pas sûr, mais je veux l'être. Levez-vous maintenant, tous ceux qui veulent être sûrs ce matin. Levez-vous. Vous êtes tous sûrs? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit oui? Moi, je veux être sûr. Qui se lève? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, une personne. Encore une autre? Il y en a d'autres. Vous pouvez vous lever maintenant. Vous n'êtes pas absolument sûr. Est-ce qu'il y a quelques autres? C'est le moment. Oh, voilà le courage. J'aime ça. Voilà un autre qui se lève. Est-ce qu'il y a un autre? Vous n'êtes pas sûr, mais vous voulez être ce matin. Levez-vous. Là où vous êtes, n'ayez pas peur. Voilà. Est-ce qu'il y a encore... Restez debout. Alors, encore quelques autres? Vous n'êtes pas... Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas sûr ce matin? Qui se lève? Alors, je vais demander... À vous qui êtes levés, vous allez avec Jeanlin dans la petite pièce derrière maintenant. Allez-y, Jeanlin. Et si Dragana est là, qu'elle aille aussi là-dedans. Allez-y. Et s'il y en a d'autres, allez-y. Hein, pendant qu'ils sont là, si vous n'êtes pas sûr, partez avec eux. Partez avec eux. Il y en a d'autres? Bon, vous savez, c'est l'anniversaire de l'Église aujourd'hui. Et nous allons louer le Seigneur pour conclure. C'est Emmanuel qui va diriger un chant, puis va nous joindre dans la petite pièce après. Hein? Lancez-le.